la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. C'est l'heure de prendre du recul avec les journalistes d'Europe 1 qui nous éclairent. Ce soir, autour de vous à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Vous pouvez bien sûr participer vous aussi au débat. Ça se passe au 39-21 pour venir nous rejoindre. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur et puis sur Twitter pour réagir avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir à
ils
tous.
Sont présents, les voilà en écho, Mickaël Darmon, Emmanuel Duteil, Ève Roger. Alors, vous avez du boulot aujourd'hui, Emmanuel, j'allais dire Emmanuel Macron, Emmanuel Duteil et Mickaël Darmon, bien sûr. Le chef de l'État a parlé en marge de sa visite de l'usine de masques. Il est dans le Maine-et-Loire et Emmanuel Macron a dit beaucoup de choses, notamment vive le Made in France, le virage souverainiste du président de la République, l'effort de guerre, dit-il, ce mot d'ordre, souveraineté. Alors, Mickaël Darmon et Emmanuel Duteil pour l'analyse économique. Mickaël Darmon, bien sûr, dans les temps de crise que nous vivons, il fallait s'y attendre. Et ça fait beaucoup réagir dans l'opposition.
Oui, bien sûr, parce que l'opposition a parfaitement compris le sens d'abord dans son rôle et puis a parfaitement compris le sens du message. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme à son habitude depuis le début de la crise, pose déjà les jalons de l'après. Et cette fois-ci, il a fait un pas supplémentaire puisqu'il a posé les deux piliers du projet politique de ce qu'il appelle maintenant le jour d'après, c'est-à-dire souveraineté, solidarité. Et de ce point de vue-là, il tente de, d'abord, il répond, bien sûr, on va en reparler aux critiques qui lui sont faites, tout en les repoussant, mais enfin il y répond, et il accélère le tempo, parce qu'en réalité, ça ne devait pas arriver à ce rythme-là, mais l'importance, la virulence des critiques l'amène à bousculer un petit peu son intention, et d'ores et déjà, il place le programme de la sortie, le projet politique de la sortie de la crise, c'est-à-dire tout simplement, au fond, un retour à une peut-être un vieux monde, le retour de la, en force de l'État, c'est-à-dire le libéral devient colbertiste 2.0, il ramène effectivement ce projet-là pour verrouiller à la fois à droite, à gauche, parce que ce sont des notions qu'on entend tant à droite de l'échiquier politique que à gauche de l'échiquier politique, et il envoie le message d'ores et déjà, il faudra compter avec lui à la sortie de cette crise, bien sûr.
Alors, il faudra renationaliser, il faudra produire en France, il faudra tout cela, c'est bien joli, Emmanuel Duteil, mais comment on fait ?
C'est quasiment impossible. C'est-à-dire que bien évidemment qu'on va pouvoir reproduire à la marge. Alors, il y a des exemples qui vont être extrêmement symboliques. L'exemple des médicaments. Là, c'est certain qu'on s'est rendu compte qu'à l'aube de cette crise, qu'on avait laissé trop de choses à la main, notamment de la Chine, puisque 80% de ce qui permet de fabriquer un médicament provenait plus ou moins de Chine. Donc là, oui, c'est certain que sur ces choses-là, il y avoir des relocalisations. Mais refabriquer des masques en France, refabriquer du gel hydroalcoolique, refabriquer des respirateurs en France, malheureusement, une fois que cette crise sera passée, ce sera bien trop tard. On n'en aura plus besoin dans la même mesure. Refabriquer plus de voitures en France, au moment où la crise va être gigantesque, où l'automobile est mise complètement à genoux. Donc, bien évidemment que non, on ne va pas relocaliser en masse. Et ce serait dans tous les cas totalement impossible, puisque beaucoup, par exemple, si on suit l'exemple de l'automobile, si beaucoup de nos constructeurs produisent en Chine, c'est pour le marché chinois. Airbus qui a une usine en Chine, on va pas rapatrier l'usine pour les avions qui sont vendus en Chine. Donc malgré tout, aujourd'hui, la France est inscrite dans un mouvement de mondialisation contre lequel il sera très compliqué de lutter. On va avoir des symboles, c'est certain, puisque là, je ne veux pas empiéter sur le sujet de Mickaël, il connaît ça mille fois plus que moi, mais la politique est faite de symboles. Donc on va avoir des relocalisations, des entreprises qui vont vouloir être gentilles et qui vont montrer l'exemple. Et on reconsommera peut-être, nous, Français, de façon très différente. Inévitablement, on va réapprendre à sûrement encore plus aller vers nos producteurs locaux et tout genre de choses. Mais pour ce qui
en
compose...
En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est de la communication liée aux circonstances.
Il n'y a pas que de la communication. Je pense qu'il y a une vraie volonté.
Oui,
mais... Il y a une vraie volonté, mais qui va se heurter à la réalité.
C'est ça. Alors, on va entendre Francis de Nancy là-dessus. Bonsoir, Francis. Bienvenue au 39-21 sur Europe 1. Francis,
bonsoir à tous.
Ce tournant souverainiste d'Emmanuel Macron, vive le Made in France. Évidemment, dans les circonstances actuelles, cela s'impose. Après, dans la réalité, vous avez entendu Emmanuel Duteil, ça va être une autre paire de manches.
Bah écoutez, tout vient d'être dit, on est dans de la communication politique, on est dans de la communication de crise. Je suis sûr que si on étudiait les discours de Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale. On trouvait des tas de trucs drôlement bien expliqués en temps de crise. Et Emmanuel Macron est dans le baratin politique habituel. Enfin, c'est un. J'espère que quand même les gens ont compris que depuis 3 ans, c'est quelqu'un qui baratine, c'est quelqu'un qui blablate et c'est quelqu'un qui raconte ce que les gens ont envie d'entendre. Prenez l'exemple de l'hôpital. Il est en train de découvrir que notre système hospitalier manque cruellement de moyens. Il nous dit que quand on sortira de la crise, on va changer tout ça. Mais reculez simplement de quelques semaines. Combien de temps de discours, de discussions y a-t-il fallu pour récupérer une dette cumulée 800 millions d'euros pour les hôpitaux français? On est dans le ridicule le plus total. Enfin, on est incapable de prévenir une crise sanitaire. La seule crise qu'on sache prévenir, on l'a déjà vu en 2008, c'est la crise financière. On fait tourner les planches à billets, ça c'est facile. Mais quand il faut s'occuper d'une population, là il n'y a plus personne, et je ne crois pas du tout au baratin, à la relocalisation, au souverainisme, aux taxes douanières, etc. etc. Enfin, tout ça, c'est ce qui fait plaisir aux gens actuellement, mais ça ne changera rien.
Ouais, vous avez comparé le chef de l'État à Pétain après-guerre. On est dans le bout du bout. Vous n'y croyez pas une seule seconde. On l'a bien compris. Vous mettez complètement en doute la parole d'Emmanuel Macron. Il y a de l'intention quand même. Vous l'avez entendu. Emmanuel Dutheil le disait. Michaël Darmon, encore un mot là-dessus. Et je voudrais donner la parole à Ève Roger. Rebâtir notre souveraineté, c'est nationale et européenne. Quand Emmanuel Macron exhorte, bien sûr qu'il y a une part de communication, mais bien sûr qu'il y a une part de nécessité absolue. Et pas qu'un simple changement de ton.
Non, il y a bien entendu la volonté pour lui de tout simplement de sauver son quinquennat, d'une part. Deuxièmement, on a bien compris que ça va être difficile, à l'instant même, on vient de l'entendre, de pouvoir convaincre. Il faut se souvenir comment, il y a quelques années, il expliquait qu'on ne pouvait pas faire un avion sans composants venant du monde entier. Ça, c'est une chose. Et puis, s'il y a une allusion, une référence politique aussi à faire, en tout cas, il a eu dans sa bouche aujourd'hui, il a parlé de la France unie. La France unie, c'était le slogan de François Mitterrand en 1988. Donc, on voit bien qu'il y a un positionnement politique, parce que à la sortie de cette crise, eh bien, c'est tout simplement la capacité de Emmanuel Macron à sauver sa peau politique.
Ouais. Évidemment, mais Macron en chantre du Made in France, vous avez entendu notre auditeur, hein, Francis, qui n'est pas allé de main morte, et de toute façon très difficile à convaincre.
Exactement. Mais la nécessité aussi.
Mais en tout cas, voilà. Ève Roger, je viens vers vous désormais. Bonsoir à vous, Ève. On est dans quelle situation à l'heure qu'il est en Ile-de-France? On essaye de faire le point chaque jour ou quasiment avec vous. Où sommes-nous aujourd'hui?
Eh bien, je peux vous dire que là, la situation est quand même assez difficile, puisqu'il y a maintenant 2037 patients en réanimation pour 2000 lits de réanimation, donc il y en a un peu plus. Mais alors, aujourd'hui, le directeur général de la PHP disait on n'est pas encore complètement saturé. Il y a une forme de sérénité, je ne sais pas comment vous dire, vous savez, une espèce de sérénité au moment de la crise, c'est-à-dire tout le monde est à son poste, tout le monde c'est la guerre, quoi. Et donc là, vraiment, il y avait 200 patients en réanimation début mars, aujourd'hui on est à 2037, c'est x10, quoi. Et on a le sentiment vraiment que tout le monde est très concentré, tous les personnels sont à leur poste, et donc ils misent sur deux choses. Donc il y a d'abord ces transferts qui peuvent paraître ridicules, 38 patients demain qui partent en TGV médicalisés, ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est très important, le turnover dans les lits de réanimation. Et puis la deuxième chose sur lesquelles on compte, parce qu'il y a des gens évidemment qui sortent de réanimation, il y a aussi des gens qui guérissent, hein, quand même. Et puis la deuxième chose, c'est on l'a dit, on est vraiment à 15 jours, jour pour jour, de début du confinement. Début, et qu'en réalité, les patients qui sont aujourd'hui dans les lits en Ile-de-France, c'est ceux qui ont été contaminés avant. Donc on peut espérer, et je crois que tout le monde croise les doigts, parce qu'on est encore dans l'incertitude, comme je vous dis depuis le début, que petit à petit, l'afflux des patients va non pas diminuer, mais que l'augmentation sera de moins en moins forte. Donc là, on est vraiment sur la ligne de crête là, en Ile-de-France.
Alors on va regarder tout ça de près avec vous, les grandes voix. On va se retrouver dans un instant, on va revenir aussi sur la prime annoncée la semaine dernière à peu près, hein, par Bruno Le Maire, qui était à 1000 euros, qui va peut-être passer à 2000 euros, on va en reparler dans un instant. Le plan pour les respirateurs aussi, ils seront normalement accessibles d'ici la mi-mai, on y revient dans un instant avec vous trois, les grandes voix, tout de suite. 18h50,
9h45 sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous et à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, responsable du service économie à Europe 1, chef, patron, président.
Exactement.
Et puis toutes vos réactions évidemment en direct au 39-21 et sur Twitter, on vous lit avec le hashtag Radio Ouverte.
Oui, Emmanuel Duteil, justement, président, c'est vers vous que je me tourne là pour démarrer cette deuxième partie des grandes voix. La prime de 1000 euros accordée aux salariés pourrait être doublée, c'est ça? C'est Bruno Le Maire qui l'a dit, si j'ai tout compris.
Eh ben, vu que je suis le président ce soir, je vous la double, Nathalie. Effectivement, jusque-là, il y avait la prime qui avait été donnée par Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes, hein, qu'on avait appelée la prime Macron, qui était une prime de 1000 euros défiscalisée et désocialisée, c'est-à-dire que ça coûtait rien aux collaborateurs et ça coûtait rien à l'entreprise. Cette prime avait été reconduite, sauf qu'il y avait eu des conditions qui avaient été mises à cette prime. Il fallait que, notamment dans les petites entreprises, il y a ce qu'on appelle un accord d'intéressement, c'est-à-dire que les salariés sont un peu intéressés aux résultats de l'entreprise. Il y a déjà quelques jours, Bruno Le Maire avait fait sauter cette clause en disant « Allez, c'est la crise, on va pas s'amuser à mettre là un accord d'intéressement, on vous donne la possibilité de donner cette prime de 1000 euros ». Là, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est un signal quand même très très fort pour les entreprises qui auront le moyen de le faire, c'est que cette prime va pouvoir être doublée. Ça veut dire quoi? Ça peut pouvoir arriver à 2000 euros, ouais. Et les entreprises ont jusqu'au 31 août pour la donner. Elle est également défiscalisée et désocialisée. Et par exemple, toute la grande distribution, Carrefour, Leclerc, Casino et autres, qui ont déjà donné des primes à ses collaborateurs, on le dira jamais assez, qui ont quand même le courage d'aller chaque jour travailler pour qu'on puisse s'alimenter, eh bien, s'ils ont déjà eu les 1000 euros, le gouvernement dit « c'est pas grave, vous pouvez redonner 1000 euros encore pour arriver donc à la somme de 2000 euros ». Et un point très important, c'est-à-dire que même ceux qui sont au chômage partiel, les entreprises ont le droit, et c'est une nouveauté des annonces du jour de Bruno Le Maire, les entreprises ont le droit d'accorder cette prime, et là c'est tout bête, mais ça permet de venir compenser un petit peu le manque à gagner.
Le manque à gagner, et je crois que pour le télétravail c'est pareil, hein, Emmanuel, normalement, en tout cas, ceux qui se déplacent ou ceux qui sont en télétravail, le ministre a dit, c'est les entreprises qui décident, hein. Je ne fais pas d'hierarchie,
voilà.
Moi.
Exactement, les entreprises peuvent accorder à tous leurs collaborateurs. Ouais. À la base, c'était une prime qui avait été décidée pour mieux redistribuer l'argent des entreprises. Là, c'est une prime qui va effectivement soulager les collaborateurs qui vont chaque jour travailler pour les féliciter. Là, on est vraiment dans de la récompense parce que il faut y aller, hein, tous les jours, prendre les transports en commun en ce moment. Quand vous entendez à la télévision tous les jours, surtout, vous ne sortez pas et hop là, même si vous allez balader le chien, vous mettez un masque parce que vous risquez de tomber malade. Bon, faut du cran, hein, chaque jour, pour aller à l'hôpital, pour aller vendre des produits dans les supermarchés, etc., etc. Donc, on est sur du symbole, mais bon, mine de rien, ceux qui vont toucher 2000 euros, c'est quand même un smic et demi que vous allez récupérer comme ça. Donc,
Ève Roger, on se parle des tests, évidemment, parce que on voit bien que de toutes parts, à travers le monde, il faut les trouver, il faut pouvoir les produire, et ça en nombre. Et on est comment dans cette course? On y arrive ou on a l'impression de se battre contre des moulins à vent?
Alors, moi, il me semble qu'on va y arriver. Hein, on va y arriver parce qu'il y a tellement de monde, à travers
le monde,
de laboratoires, tellement de CHU en France, de chercheurs. Mais c'est incroyable. Ça pullule dans tous les sens. Après, il y a des tests de bonne qualité, puis des tests de beaucoup moins bonne qualité. Aujourd'hui, j'avais au téléphone une responsable à Strasbourg qui était en train de valider des tests. Elle me dit, je reçois plein de kits qui arrivent de Chine. Et moi, mon travail, c'est de tous les valider pour voir s'ils sont efficaces. Enfin, c'est des termes techniques, mais elle dit, il y en a qui sont, on ne sait pas trop, ils donnent trop de faux positifs, trop de faux négatifs. Donc sa journée, elle passe sa journée à valider les tests pour savoir lesquels seront les meilleurs. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à un membre du conseil scientifique, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Il m'a dit oui, on va y arriver. Ouais. Le problème, c'est vraiment quand il va falloir en fabriquer des millions, mais c'est pour dans 15 jours, c'est pour dans 3 semaines, quoi. Il va falloir en fabriquer. Mais visiblement, là aussi, on va peut-être manquer aussi de réactifs comme on en manque aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les tests qui existent aujourd'hui, on manque de produits. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, les réactifs, ils sont où? Ils sont toujours en Chine, partout.
En Chine,
Donc, mais on devrait pouvoir y arriver. Et puis l'idée, c'est de vraiment marcher sur les deux jambes, de sortir du confinement avec d'un côté, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète, d'un côté les tests qui disent oui, j'ai le virus, non, je ne l'ai pas quand on a des symptômes. C'est ce qu'on appelle les tests PCR. Et puis de l'autre côté, le test de sérologie qui est de dire oui, j'ai croisé ou non le virus, peut-être même sans m'en rendre compte. Et ce test-là va être primordial parce que c'est grâce à ce test-là qu'on va savoir si on peut sortir et si on peut reprendre l'activité à la sortie du confinement.
C'est ça, le déconfinement qui passera obligatoirement par là de toute façon. Donc ces tests indispensables, on le sait bien sûr, comme les masques et comme les respirateurs dont on a parlé il y a quelques instants avec mon invité Yann Vincent et sur lequel je vais vous interroger encore dans une seconde. Un mot de nos ministres actuellement du gouvernement, Michaël Darmon. Vous avez des coulisses, des informations sur la manière dont on les tient, entre guillemets, sur ce qu'ils vont dire et pas dire, sur ce qu'ils ont droit, sur les terrains sur lesquels ils peuvent communiquer sans faire de bourde, dont on se souvient de la semaine dernière.
Effectivement, alors c'est même quasiment un confinement en termes de communication qui a été décrété. C'était lors d'une réunion hier soir en visioconférence à partir de Matignon et avec l'ensemble des communicants du gouvernement. Et alors là, je veux dire que la liste vraiment des consignes a été absolument drastique. Il aura été ordonné que pour leur ministre maintenant, il y ait une autorisation express de Matignon avant de pouvoir passer dans les médias, ce qui est absolument nouveau, une forme d'attestation de déplacement médiatique en quelque sorte. Donc ils doivent dire effectivement, obtenir d'abord le feu vert de Matignon. Il leur est recommandé de privilégier la presse écrite parce que les interviews sont relues et corrigées à la différence évidemment des plateaux des studios radio, des plateaux télévision. On leur demande d'adopter quand ils sont dans les médias un ton grave. Il faut arrêter de faire de l'humour, ça c'est certainement pour faire allusion aux échanges peu légers et un peu batifolants sur les boucles Telegram
sur le net
avec certains
à des heures indues par exemple
ou évoquant des heures indues et il a été donc précisé à ce moment-là que chaque bourde serait comptée triple, pour vous dire à quel point effectivement c'est compliqué. Bref, on a bien compris que tous ces avertissements qui ont été donnés de manière extrêmement drastique, eh bien en fait visent aussi à gérer une urgence aussi puissante que quelque part, bien sûr, sur le plan politique, les masques ou les problèmes matériels. C'est-à-dire que les mauvais sondages vis-à-vis du gouvernement inquiètent en permanence. Et là, depuis la semaine dernière, le grand nettoyage a été décrété. Et hier soir, il a été dûment notifié à l'équipe gouvernementale qui est maintenant confinée pour essayer d'éviter l'épidémie des couacs.
Oui, c'est ça. En même temps, cela s'impose compte tenu effectivement des circonstances. Donc, parole relue dans la presse et contrôlée, vous l'avez dit, Michaël Darmon. Du coup, Emmanuel Dutheil, pendant ce temps, sur le terrain, on s'active pour les tests, on s'active pour les masques, on s'active aussi pour les respirateurs. J'ai interrogé tout à l'heure Yann Vincent, directeur industriel de PSA, des respirateurs qui sont attendus pour la mi-mai. Et en fait, on va s'entraider entre fabricants et entre différentes capacités, différentes usines de production, même celles qui n'ont rien à voir normalement avec l'engin.
Oui, effectivement. Alors, on voit qu'il en manque partout. Tout à l'heure, à la conférence de rédaction, sans trahir de secret, Eve Roger nous disait, vous voyez, quel que soit le pays, même les États-Unis manquent de tout aujourd'hui. Donc, bien malin celui qui aurait peut-être pu prédire qu'il en fallait autant. Mais là, force est de constater qu'il nous en manque énormément. On va en produire donc 10 000. Alors, il y avait quand même un groupe industriel français qui était déjà en pointe sur ce genre de technique. C'est Air Liquide. C'est un groupe qu'on connaît pas très bien, mais c'est l'un des géants, notamment de l'hydrogène. Enfin, bon, ceux qui jouent en bourse les connaissent parce que c'est toujours la valeur qui est recommandée à avoir en fond de portefeuille. Mais au-delà de ça, donc, c'est eux qui vont emmener un peu tout le monde. Et derrière, on a les grands noms de notre industrie qui viennent. On a PSA, donc Peugeot, Citroën, qui vont également venir prêter main forte. On a Valeo, qui est l'un des plus gros équipementiers automobiles au monde, qui est l'entreprise qui dépose le plus de brevets en France. Donc, vous voyez, c'est des gens qui savent faire de l'innovation, qui savent faire de l'industrie. Et un autre très, très grand groupe industriel français qui s'appelle Schneider, qui là aussi va venir apporter ses collaborateurs, ses compétences, ses moyens, ses usines, ses capital, pour gagner cette bataille. Alors, on sait que toujours les calendriers qui sont donnés sur mi-mai, bon, pourvu qu'on y arrive et pourvu que ça n'arrive pas trop tard pour la suite, puisque une bonne partie de la vague sera potentiellement passée dans certaines régions. Donc, il faut vraiment là aller très très vite, très puisque vite. Ève dirait ça beaucoup mieux que moi, mais je crois que ça fait partie des outils indispensables pour permettre de sauver des gens.
Bien sûr. Ève Roger, justement, aux États-Unis, Emmanuel Duteil le disait, ils en manquent aussi. Aux États-Unis, on est comment à l'heure qu'il est ? On sait que l'épidémie, elle s'accélère de manière considérable. La mobilisation générale est-elle véritablement au rendez-vous ?
Ce qui me frappe aux États-Unis quand je lis la presse, c'est que je vois il y a 3000 morts aujourd'hui, 160, ouais. Plus de 160 000 cas. 3000 morts, c'est-à-dire plus que le 11 septembre. Donc vous voyez, il y a quand même un parallèle qui est quand même étonnant. Mais ce qui me frappe surtout, c'est quand je lis la presse américaine, j'ai l'impression de lire la presse française. C'est-à-dire qu'il y a eu on reproche au gouvernement, à tous, le retard à l'allumage, on reproche le manque de protection, on reproche le manque de tests, on reproche le manque de respirateurs artificiels, on s'inquiète pour les maisons de retraite. Donc au fond, on se rend compte que... Je parle sous le contrôle d'Emmanuel, que la première puissance mondiale, alors je ne sais pas si c'est toujours la première, mais a exactement les mêmes difficultés que nous, les mêmes. Et alors que c'est un pays qui est censé de pouvoir répondre à toutes les demandes.
Ouais. Donc vous avez raison, on a vu des hôpitaux provisoires d'ailleurs érigés en plein Central Park. On a l'impression effectivement qu'on n'est pas...
Que c'est les hôpitaux appellent au secours exactement comme partout en Italie, en France. Ouais. Et ce que je trouve étonnant, enfin intéressant dans cette histoire de virus, de coronavirus, c'est que le coronavirus, il touche tout le monde à égalité. Tout le monde est touché, que ça soit un pays riche, un pays moins riche, des gens des classes de toutes les classes sociales. Alors c'est vrai que c'est au moment de la prise en charge que l'inégalité se recrée. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous avez accès plus ou moins au dépistage, que vous avez plus ou moins accès aux meilleurs services. Mais c'est quand même un virus qui ne fait pas de distinguo entre les pays, entre les dirigeants, entre les catégories sociales, quoi.
Et on sait que, évidemment, la santé n'est pas universelle sur place. Peut-être un mot là-dessus, Emmanuel Duteil, puisque Ève Roger vous interpellez. On reste en France.
C'est vrai que du côté des États-Unis, c'est-à-dire que ça montre aussi à quel point le système de santé américain est sûrement l'un des plus inégalitaires au monde. C'est-à-dire que vous avez objectivement les meilleurs hôpitaux au monde pour ceux qui ont la chance de pouvoir le payer ou qui ont ce qu'on appelle des bénéfices, c'est-à-dire avec leur salaire, une bonne assurance santé. Hein. Faut voir qu'une consultation de simple généraliste aux États-Unis, en tout cas à New York, dans les bons quartiers, vous en avez pour au minimum 150 à 200 dollars. Donc vous imaginez, là, pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de bonne assurance, ils vont inévitablement reculer. Et ça va être un très 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 gros problème pour les Américains. C'est-à-dire qu'on sait que l'épidémie s'est développée aussi, parce que sûrement que les pouvoirs publics n'ont pas pris conscience de ce qui était en train d'arriver. Ils se croyaient plus forts, ils avaient fermé les vols Air France, ils croyaient que ça leur suffisait. Mais il y a aussi un vrai problème d'aller toucher tous les Américains, puisque nous, on a beau voir que notre hôpital explose en ce moment, il n'en reste pas moins qu'on a un système hospitalier qui tient, qui fonctionne et qui est universel dans la mesure du possible, qui puisse être universel.
Ouais, c'est ça, les États-Unis donc frappés en plein cœur, même si le pays s'est recroquevillé, on voit bien qu'ils n'ont pas plus de réponses que les autres. Merci Emmanuel Duteil. Un mot encore pour conclure avec vous, Mickaël Darmon, rapidement, sur l'importance finalement des territoires, là, dans cette guerre contre le Covid, la gestion de la crise qui met vraiment les régions en avant.
Oui, c'est un des effets de cette crise, c'est que les présidents de région, avec leurs puissants moyens financiers, sont aujourd'hui porteurs d'initiatives. On l'a vu hein, dans les différentes régions, en Ile-de-France, la gratuité du pass Navigo, dans d'autres régions, notamment dans le Nord, financer les entreprises qui vont faire des masques. Bref, ce sont les présidents de région qui retrouvent ou qui trouvent, peut-être pour la première fois, une dimension politique inédite. Et les maires également sont très présents et très actifs, avec notamment l'élaboration, comme on le voit beaucoup autour de Marseille en ce moment, par des initiatives municipales, des centres de Covid, des Covid centers, comme ils disent, ou tout simplement pour décharger la médecine de ville, on réquisitionne des salles municipales pour faire le premier accueil de ceux qui pourraient avoir les symptômes, de manière à pouvoir déjà faire le filtre et alléger les structures médicales en ce moment surchargées. Donc on voit bien que les élus locaux
se remontent les manches comme jamais.
Voilà. Et c'est évidemment pas loin de la politique, puisque tous les présidents de région sont à droite. Et bien évidemment, ça instruira également la situation post-crise.
Bah évidemment, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise. Merci beaucoup les grandes voix, Mickaël Darmon, Ève Roger, Emmanuel Duteil. Merci beaucoup à tous les trois. À demain, belle soirée à vous.